Bien, merci. Mesdames, Messieurs et chers collègues, je voudrais d'abord vous préciser d'où je parle. Je suis titulaire au Collège de France d'une chaire d'immunologie, mais j'ai de l'immunologie une vision large, c'est-à-dire que pour moi, elle englobe la microbiologie et les maladies infectieuses, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est conforme à l'histoire, et l'immunologie a toujours été extrêmement proche des phénomènes infectieux, bien entendu. Deuxièmement, parce que par la vaccination notamment, cette proximité est évidemment largement établie. Troisièmement, parce qu'il m'est arrivé de diriger les programmes de vaccination d'une grande entreprise de vaccins et donc d'avoir évidemment un regard sur les maladies infectieuses qui étaient concernées. Et dernièrement, quatrièmement, parce que pendant plusieurs années, j'ai dirigé l'Institut Pasteur et vu par la dimension internationale du réseau Institut Pasteur, des Instituts Pasteur, les grands problèmes qui se posaient sur le terrain. Ceci étant dit, je dirais tout aussi clairement que je ne suis pas un expert de santé publique internationale et si je peux exploiter ce que je fais, une certaine expérience, je n'ai pas les connaissances que vous pourriez attendre sur certains sujets. Donc je vais revenir sur le phénomène infectieux et déborder en fait du cadre du résumé qui est ici pour vous parler ou, à titre d'introduction, revenir sur ce tableau mondial des maladies infectieuses, dont le bilan est très connu, le bilan de mortalité, donc de 14-15 millions de morts par an, dont évidemment beaucoup d'enfants, la morbidité, dont on a également parlé hier et avant-hier, qui est avérée dans le cas du VIH, de la malaria, mais on oublie aussi les dégâts causés par ces parasites que sont les helminthes, les filarioses, il y a tout un tas de maladies qui sont relativement peu et mal connues. Et finalement, le fait que les risques liés aux maladies émergentes et réémergentes sont totalement irréductibles et leur fréquence est peut-être plus importante qu'on ne croit. Une étude anglaise révèle qu'il y a eu, au cours des 30 dernières années, un épisode infectieux grave et potentiellement dangereux tous les 8 mois. Et épisode infectieux, entendez par là, d'une maladie soit émergente, totalement nouvelle, soit réémergente, c'est-à-dire un agent infectieux que l'on croyait plus ou moins disparu. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le terme d'éradication. Je pense qu'il est idéologiquement connoté en réalité. Et quand on pense même à l'éradication de la variole, l'un de nos collègues allemands hier a mentionné le fait qu'il fallait surveiller le monkeypox, qui est un variant de la variole, qui effectivement pointe le nez de temps à autre dans certains pays d'Afrique. Et donc je pense que le terme d'éradication n'est pas approprié. Alors, une partie de ce que je vais vous dire, mais une partie seulement, figure dans un rapport que j'ai rendu pour au gouvernement français il y a l'an dernier et qui portait sur la surveillance des maladies infectieuses. Et le travail qui m'était demandé, c'était de faire des recommandations pour optimiser l'action de la France dans l'amélioration de la santé mondiale. Alors, je ne vais pas détailler ce qu'il y a dans ce rapport, encore que ça pourrait être important pour un certain nombre de points, mais j'utiliserai certains des éléments. Et je vais vous dire que ce qui singularise l'action française, juste pour en dire un mot, c'est le fait que nous disposons d'un réseau extraordinairement développé d'implantations dans le monde, qui est lié en fait, évidemment, à notre histoire militaire et à notre histoire coloniale. Mais qu'à l'évidence, si nous nous comparons à d'autres nations, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres, la France dispose d'un réseau d'implantations qui est sans équivalent, sauf ce que les États-Unis sont en train de mettre en place. Et je reviendrai sur ce point. Alors, les risques liés aux maladies infectieuses sont évidemment accrus et mondialisés, entre guillemets. Je pense que j'ai eu bien raison d'utiliser le principe de précaution et de mettre des guillemets à la mondialisation, par l'urbanisation, la conurbanisation, l'accroissement de la mobilité des hommes, des marchandises. Et les exemples sont évidemment bien connus, le VIH, le SRAS, la grippe aviaire. Nous avons eu des exposés extrêmement documentés sur ces différents points. Évidemment, la distribution, comme nous le savons, est extrêmement asymétrique entre ce que j'appelle le Nord et le Sud. Le Nord, c'est les pays développés. Le Sud, c'est les pays moins développés ou en développement ou émergents. Et donc, la mortalité et la morbidité sont fort mal réparties, si j'ose dire, en ce sens que le Sud est évidemment la cible majeure de toutes ces maladies infectieuses. Et l'impact économique est considérable, aussi bien au Nord qu'au Sud. Vous savez que l'épisode du SRAS a été chiffré en termes économiques. Et dans des pays développés comme Hong Kong, Singapour ou Toronto au Canada, c'est par milliards de dollars que l'épisode du SRAS a été chiffré. Bien entendu, les maladies infectieuses ne sont pas le seul frein au développement et ni la seule cible de l'aide au développement. Et encore une fois, dans ces généralités, je rappellerai que bien sûr, c'est la santé au sens large dont on pourrait parler. On a parlé hier et superbement d'obésité qui se développe dans tous les pays du monde. Les maladies auto-immunes se développent. On n'a pas parlé ici, je crois, d'allergie ou pas beaucoup parlé d'allergie, mais l'allergie se développe de façon absolument incroyable, de la même manière que l'obésité, y compris dans les pays en développement. Mais évidemment aussi les problèmes liés à la faim, l'éducation, l'environnement, le climat. Au total, une prise de conscience tardive dans les pays riches, et je voudrais le dire parce que les pasteuriens, si je peux dire, depuis un siècle, ont toujours su que dans les pays en développement, il y avait des très très graves problèmes de santé et de maladies infectieuses, et c'est bien une espèce de masque que se sont mis les pays riches, au motif d'ailleurs que le succès des vaccins, des antibiotiques, a occulté les problèmes des maladies infectieuses jusqu'à ce que l'épidémie de sida, comme Michel Kazatchkine l'a si bien développé, et réanimer la conscience collective sur les problèmes de maladies infectieuses. La conscience accrue du partage des risques, ô combien sensible aujourd'hui avec la question de la grippe aviaire, et l'émergence de nouveaux acteurs nationaux et internationaux, de nouvelles sources de financement, des ONG, des mécènes, de nouveaux mécanismes, des partenariats publics-privés, et j'en dirai un mot parce que je pense que tout ceci nous indique, et j'utilise là des termes sur lesquels je n'ai peut-être pas totale compétence, mais je pense qu'on assiste réellement à un énorme déplacement des équilibres et même des pouvoirs. Déplacement des équilibres, déplacement des pouvoirs dans toutes sortes de sphères. Au sein de la sphère scientifique, par exemple, on peut s'amuser, je m'y amuse de temps à autre, analyser les déplacements des forces qui traversent notre communauté, les forces au niveau non pas intellectuel, bien entendu, mais au niveau de l'influence politique. Et par exemple, on voit bien que les climatologues, aujourd'hui, prennent plus d'importance, et c'est normal, on le comprend tout à fait. On remarque qu'à l'inverse, peut-être y a-t-il un petit travail à faire, en matière de biodiversité dans notre pays, c'est plutôt les journalistes qui en parlent que les scientifiques. Donc le pouvoir en matière de biodiversité n'est sans doute pas aussi bien établi qu'en matière de climatologie. Bref, le point le plus important, c'est que cela se développe également au sein d'autres sphères, la sphère des mécènes, des ONG et des partenariats publics-privés. La scène des mécènes, avec l'émergence ou la réémergence, pour le coup, de très grands mécènes, et bien sûr le nom de la Fondation Gates a déjà été plusieurs fois cité, mais on ne peut pas se dire, et je le montrerai tout à l'heure, que la Fondation Gates est dépourvue d'un certain pouvoir, c'est tout à fait évident, et sa création a déplacé des équilibres, comme je vous l'expliquerai. Des ONG extrêmement puissantes, en France nous avons beaucoup d'ONG, en Allemagne également, mais certaines sont vraiment extrêmement développées, comme Médecins sans frontières pour n'en citer qu'une, et des partenariats publics-privés dont je dirais un mot en vous expliquant peut-être ce qu'est le partenariat justement qui fonctionne sur la vaccination et qui s'appelle Gavi. Sur la scène politique, on voit également, bien sûr, la montée extrêmement forte de la diplomatie sanitaire et humanitaire. Et par exemple, il n'est pas indifférent, en tout cas, que la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé soit chinoise. Et l'on voit bien l'influence croissante de la Chine, par exemple, en Afrique, de la même manière que l'on voit bien que le rôle joué par les États-Unis en matière de diplomatie sanitaire est extrêmement important, et l'Union européenne, la France et l'Allemagne jouent bien entendu leur rôle. Donc ce que je voudrais faire, c'est vous dire ceci. Je vais, après encore un peu, quelques minutes supplémentaires d'introduction, aborder en fait deux thèmes qui sont, à mon avis, des zones de pouvoir mal connues souvent, ou mal appréciées, ou non appréciées, à mon sens, à leur juste valeur. Zone de pouvoir, zone d'influence, je vais m'expliquer sur cette terminologie, et qui se trouve, à mon sens, en situation déséquilibrée. Et ma thèse sera que, s'il en est ainsi, c'est que les domaines en question, et je les ai choisis pour ça, à vrai dire, ne sont pas, à mon sens, suffisamment instruits par la science. Et je m'en expliquerai en tirant des exemples des maladies infectieuses, puisque c'est le domaine dans lequel j'ai un peu de compétences. Donc, pour terminer cette introduction, je vous dis un mot de la situation mondiale des vaccins. Et premièrement, le fait que les vaccins ne représentent que 2 à 3 % du marché de l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est tout à fait remarquable, parce que c'est quand même pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup, et quand vous savez que les entreprises industrielles qui font du vaccin dépensent en R&D, en recherche et développement, le même pourcentage de leur chiffre d'affaires que les entreprises qui font du médicament, ça veut dire que la recherche industrielle en matière de vaccins, ça doit être à peu près 2 à 3% de la recherche de l'argent mondial disponible, sachant que ces entreprises dépensent énormément, puisque c'est entre 15 et 19% de leur chiffre d'affaires total. Ce sont des sommes absolument colossales qui sont dépensées en R&D. Donc peu d'argent industriel, et ce qui est assez intéressant, et cela c'est un problème d'économie que j'adresserai volontiers à mon collègue et ami Roger Yenry, le prix du vaccin est incroyablement bas. Et les gens du métier s'en plaignent en disant c'est quand même ahurissant, n'importe où on achète une bouteille de Coca-Cola et on accepte de la payer, je sais pas quoi, un dollar, etc. Et à un dollar, un vaccin est toujours trop cher et il y a un problème, etc., qui est lié au fait que l'on n'apprécie pas dans le coût du vaccin l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire de tout ce qui résulte de la prévention vaccinale, et cela impacte évidemment sur le prix du vaccin. Un point qui est très important, c'est qu'il s'est produit au cours des deux dernières décennies un déplacement qui est sociologiquement très important, dans la mesure où, alors que l'industrie faisait une, en matière de vaccin toujours, faisait une recherche vaccinale relativement développée, les mécanismes de concentration, puis la création du tissu intermédiaire des entreprises de biotechnologie, ont fait que finalement la portion recherche et la portion clinique notamment de la recherche est tombée, non pas en déshérence, mais enfin changée complètement de structure. Ce qui s'est produit à partir de cela, c'est qu'un certain nombre d'institutions académiques ont commencé à essayer de compenser ce déficit de recherche qui s'était installé, et elles n'y parviennent pas. Elles n'y parviennent pas pour des raisons de compétences. Il est très difficile de faire des essais cliniques de certaines natures. C'est un métier, il faut des compétences, et ces compétences sont maigres, disons, dans le milieu académique. Les coûts sont colossaux. On estime qu'une expérience, entre guillemets, donc un essai clinique de recherche, hein, je ne suis que dans les essais cliniques de recherche, coûte 3-5 fois le coût de la recherche et parfois 10 fois le coût de la recherche. Et la communauté scientifique, des biologistes en tout cas, n'est pas généralement prête à endosser ces coûts au motif que, bien sûr, avec autant d'argent, on peut faire beaucoup de choses dans la recherche dite fondamentale. Et on tombe un peu dans ce que j'appelle le syndrome de la grande science, pas les bonnes œuvres, qui est un autre problème, qui est que dans beaucoup de pays, dont le nôtre, je pense que la recherche en santé publique est largement sous-évaluée et sous-financée pour des raisons dont, encore une fois, on pourrait discuter. Quelques autres points. La perception des urgences dans l'idéologie hypersécuritaire du Nord, avec le fameux principe de précaution, et je prends juste un exemple ici. Aux États-Unis, suite aux épisodes de l'anthrax de 2001, on a redéveloppé un vaccin contre la variole. Ce vaccin a été redéveloppé de façon accélérée au motif que le vaccin historique, si je peux dire, n'était pas parfait parce qu'il donne des effets secondaires. En fait, on s'est aperçu que la souche n'était pas pure, donc on a recloné la souche. Tout ça a été fait de façon très remarquable en 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans maximum, et donc un nouveau vaccin qui d'ailleurs a montré qu'il avait malheureusement les mêmes désavantages que le premier, donc échec. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que pour développer ce vaccin, on a effectivement utilisé des procédures d'urgence, alors que jusqu'à une époque récente, on n'a jamais utilisé de procédures d'urgence pour développer le vaccin contre le sida. Donc, deux poids, deux mesures, de façon absolument éclatante, d'après cet exemple. Alors, le deuxième point va me faire rentrer dans mon sujet, parce que je voudrais évoquer la poussée réglementaire et la montée des standards. Alors, la montée des standards, c'est quoi? Et la poussée réglementaire, c'est quoi? Vous savez que tout le domaine des vaccins, et le domaine pharmaceutique, évidemment, par extension, est surveillé, contrôlé par des systèmes nationaux, internationaux. Et pour parler des internationaux, l'agence européenne, l'EMEA, et l'agence américaine, la FDA, l'Organisation mondiale de la santé, un rôle plus de conseil et d'influence que de réglementation. Et ces agences réglementaires sont évidemment extrêmement puissantes. Et ce que l'on observe, bien sûr, c'est que les standards de production et même de recherche évoluent, bien entendu. Ils évoluent dans le sens d'une rigueur toujours accrue. Ce qui est parfaitement compréhensible, parfaitement logique. Certains mauvais esprits pourraient dire que les agences font de la compétition entre elles pour élever les standards. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est peut-être pas complètement faux non plus. Mais enfin, quand vous voyez de nouveaux instruments apparaître, spectrométrie de masse, etc., évidemment, les méthodes analytiques sont meilleures. Donc, vous analysez votre vaccin et vous trouvez des impuretés que vous ne voyez pas avant. Et l'agence réglementaire dit que ce serait quand même mieux si vous vous débarrassiez de ça. Et du coup, les standards augmentent. Alors, je vous parle de ça parce que, comme vous le verrez, ça a une importance majeure pour ce qui se passe dans les pays en développement. Puis, un autre phénomène qui est un phénomène de judiciarisation, qui est extrêmement, qui se développe, qui est très très prégnant aux États-Unis notamment, voire de criminalisation, c'est ce que nous avons pu voir en France dans l'affaire du sang contaminé, et avec des conséquences qui sont extrêmement importantes sur le comportement des producteurs. Alors, l'exemple historique, enfin, il y a beaucoup d'exemples, mais je traiterai tout à l'heure de l'exemple du vaccin contre le rotavirus qui, aux États-Unis, qui a été retiré du marché dans des conditions, disons, un peu discutables. Et puis, bien sûr, vous avez également des questions qui touchent maintenant à la responsabilité collective au niveau national et international. Et je vous citerai juste le cas qui était dans tous les journaux, donc c'est bien connu, mais je l'ai un peu plus documenté, du vaccin contre la grippe qui était produit en Angleterre dans une usine d'un fabricant. Et il est vrai que j'ai analysé le cas pour être sûr de ce qui s'était vraiment passé dans cette affaire. Il est vrai que l'usine de production avait reçu des injonctions de l'autorité réglementaire britannique au motif qu'elle n'était pas complètement aux normes. C'est absolument juste et il n'avait pas, semble-t-il, satisfait à toutes les injonctions. Ce qui s'est produit, c'est que l'autorité réglementaire britannique a fermé l'usine du jour au lendemain. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un déficit de la moitié des doses de vaccins antigrippales aux États-Unis. Parce qu'en fait, cette usine fournissait la moitié, ou 40% exactement, du vaccin antigrippal aux États-Unis. Les États-Unis paniquent, problème de santé publique, puisque aux États-Unis, comme en France et j'imagine en Allemagne, on essaie de vacciner les populations à risque, et notamment les populations âgées. Et les États-Unis ont réussi à se couvrir à peu près. D'après ce que me disent mes collègues, personne ne sait exactement en réalité ce le degré de couverture qui a été atteint. Plus exactement, personne ne peut dire si le degré de couverture qui a été atteint a fait ou non, a été ou non la cause d'un certain nombre de décès, en raison donc d'une décision prise par une autorité réglementaire britannique. Et incidemment, si les États-Unis ont réussi à se procurer un certain nombre de dizaines de millions de doses qui leur manquaient, on peut se demander où ils les ont trouvées et donc si elles ont manqué ailleurs. Mais enfin bref, voilà. Donc il y a effectivement des problèmes qui sont des problèmes beaucoup plus globaux que l'on peut imaginer, que l'on imagine parfois. Alors, comme mes collègues, Michel Kazatchkine, Steve Kaufman et quelques autres, je vais maintenant vous parler un tout petit peu des maladies négligées, à la fois au niveau du vaccin et au niveau du médicament, parce que nous allons entrer dans le cœur du... Je reprends un chiffre qui a été montré par Steve, d'ailleurs, mais sous une autre forme. Il y a 1400 médicaments qui ont été produits au cours des... nouveaux médicaments produits au cours des 25 dernières années. Il y en a environ 1% qui sont dévolus aux maladies des pays en développement. En ce qui concerne les vaccins, il y en a très peu qui ont été, ou quasiment pas d'ailleurs, qui ont été développés à l'intention des pays en développement. Ce qui a été fait, et je reviendrai là-dessus, c'est bien sûr d'exporter dans les pays pauvres des vaccins qui étaient produits par et à l'intention des pays riches. Ceci étant, ce que les vaccinologues et les entreprises de vaccins font depuis longtemps, c'est une pratique de prix différentiel. Et c'est finalement, je vous le rappelle, cette pratique qui aujourd'hui a quelque part débloqué la situation concernant les antirétroviraux sur le sida. Et donc cette pratique des prix différentiels était en fait habituelle dans le domaine connexe du vaccin. Alors, le problème quand même, c'est que dans le même temps, c'est-à-dire dans les 25 dernières années, le prix, la somme, les financements consacrés à la R&D dans le domaine de la santé a été multiplié par un facteur d'au moins 3 à 5, au moins. Et aujourd'hui, probablement beaucoup plus en raison de la poussée asiatique dans le domaine de la R&D. Et donc, si vous voulez, j'utilise cet argument pour dire que très clairement, on ne peut pas dire qu'on a manqué d'argent. Le fossé 90-10, qui a déjà été évoqué plusieurs fois ici, qui est un terme qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé pour décrire le fait que 90% des financements vont à 10% de la population, et bien sûr, avec le déficit réciproque, ce fossé 90-10 reflète un problème qui est structurel dans l'allocation des ressources. S'il y a 25 ans, on pouvait dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Si on a multiplié par le financement par 3 ou 5, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas assez d'argent pour en mettre un peu sur les maladies négligées. Ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. En fait, c'est bien un choix implicite, parfois explicite, mais implicite. Et je crois, j'imagine plutôt que l'on dépense probablement plus sur le cancer de la prostate que sur la totalité des maladies négligées, et c'est un choix qui est effectué pour des raisons que l'on peut évidemment comprendre et analyser. Mais il faut développer les choses un petit peu pour bien les comprendre, et en fait c'est extrêmement simple. En matière de R&D, donc recherche et développement, ce qui se produit, c'est que la recherche est à peu près indépendante du marché. Le développement, lui, est très dépendant du marché, pour une bonne raison, c'est qu'il coûte très cher, et comme je vous l'ai dit, le développement était largement l'affaire des industriels. Et il est toujours, bien entendu, très largement et presque exclusivement l'affaire des industriels. Le coût de développement d'un nouveau produit, ça se situe quelque part dans la pharmacie entre 200 et 1500 millions d'euros, 1,5 milliard d'euros, et certains chiffres sont supérieurs à ça. Il faut analyser ces chiffres avec un peu de prudence parce que souvent, le chiffre, il y a même un chiffre à 2,7 milliards de dollars qu'on trouve dans certaines publications, souvent ces chiffres intègrent les échecs. Et donc, évidemment, c'est le coût du succès, ce n'est pas uniquement le... D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut bien intégrer aussi le coût des échecs. Donc, ces chiffres ne sont pas faux en soi, mais il faut les interpréter. Donc, si vous voulez, des coûts qui sont absolument colossaux, et bien entendu, à partir du moment où le développement est ce qui coûte le plus cher, c'est évidemment là que les choses coincent, et c'était évidemment toute la problématique des maladies négligées, parce qu'il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas de médicaments ou de vaccins spécifiques. Et pourquoi il n'y en a pas ? Parce que, principalement, on ne peut pas développer. Donc, la recherche, dans une certaine mesure, est négligée, parce que, mais pas totalement, parce que dans le milieu académique, on s'autorise à travailler quand même sur à peu près ce qu'on veut. Encore que si on fait l'inventaire des laboratoires français qui travaillent sur les filarioses ou les helminthes, on ne va pas en trouver des centaines. Bon. Mais ceci étant, la recherche, donc la partie recherche est relativement autonome, si vous voulez. En revanche, il est absolument évident, clair, et c'était tout à fait clair pour moi lorsque j'étais à la tête de l'Institut Pasteur, que la plupart des recherches, même si elles aboutissent, ne seront pas développées par manque de ressources et de moyens ou de systèmes qui permettent de développer. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui est extrêmement paradoxale, qui est que beaucoup de recherches, certes, orientées à peu près correctement, mais l'argent du développement, il est totalement insuffisant. Et incidemment, je n'ai pas le temps de détailler ici des mécanismes d'une autre nature et qui touchent maintenant à la manière dont on peut faire les essais cliniques, et notamment les essais cliniques de grande ampleur de phase 2 et de phase 3. Mais je pense qu'il y a un véritable problème au niveau mondial en matière d'essais cliniques. Par exemple, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait réellement la possibilité de développer, de tester, l'ensemble des candidats vaccins contre le sida. Il y a simplement ni les ressources, il y a simplement pas les moyens. C'est pas possible. Et donc, à partir de ça, on aperçoit bien que les choix deviennent parfois plus politiques que scientifiques, puisque, évidemment, ce sont des réseaux d'influence qui se mettent en action pour développer les choix. Alors, bien entendu, il existe des domaines qui sont liés à tout à fait des domaines de recherche et de développement qui sont tout à fait spécifiques. Les aiguilles, la question de la chaîne du froid, les systèmes de santé qui peuvent avoir aussi un impact sur la recherche, y compris en sciences sociales, et j'y reviendrai, et sur le développement de produits spécifiques. Comme Michel Kazatchkine et Steve Kaufman vous l'ont expliqué, les choses évoluent et ont remarquablement évolué parce que des solutions nouvelles ont été élaborées. Alors, j'en cite ici un certain nombre, et bien entendu, je ne vais pas reparler du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et la malaria, que Michel Kazatchkine a expliqué. Il existe d'autres initiatives contre des maladies spécifiques que la tuberculose, et Steve Kaufman en a parlé. DNDi est une nouvelle ONG qui a été créée et qui se consacre à la production de médicaments contre les maladies négligées et qui vient d'enregistrer un succès notoire grâce à une collaboration avec Sanofi Aventis pour la mise sur le marché il y a 2-3 mois de nouvelles pilules contre la malaria. Et je voudrais vous dire un mot de Gavi parce que pour moi ça illustre bien ces déplacements de grands équilibres. Il y a un certain nombre d'années, exactement 7, Gavi a été créé il y a 6 ans et quelques. Gavi a été créé en réaction initiative de la Fondation Gates qui commençait à développer, afficher et à injecter des ressources dans la vaccination et notamment la vaccination des enfants dans les pays en développement. Finalement, je pense qu'il y a réellement eu une petite déstabilisation à la tête de l'OMS parce que l'Organisation mondiale de la santé, comme vous le savez probablement, n'a pas beaucoup de ressources. Et en fait, 80% de ces ressources sont consacrées à payer ses propres personnels. Donc ces moyens d'intervention sont relativement peu développés, sont beaucoup plus des moyens d'influence. Alors, ce qui s'est produit, c'est que finalement, Gates a conclu une sorte d'accord avec l'Organisation mondiale de la santé parce que, à l'évidence, il fallait que tout le monde se mette à la tâche, si vous voulez, et ça donnait naissance à un partenariat public-privé totalement, enfin, à mes yeux, tout à fait exemplaire, qui comprend la Fondation Gates, qui a mis sur la table 750 millions de dollars, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, plus des représentants d'un certain nombre de gouvernements tournants, des représentants tournants des industriels, des représentants tournants d'institutions académiques. Et c'est pour ça que je connais relativement bien cette situation, puisque j'ai siégé 2 ans au titre de l'Institut Pasteur, qui avait été choisi comme institution académique après le NIH. Donc, Gavi pratique une politique de financement conditionnel en matière de vaccins, et ce que vous a expliqué Michel Kazatchkine sur le fonctionnement du Fonds mondial ressemble assez fort à ce que Gavi a mis en place. Et là aussi, de la même manière que Michel Kazatchkine, je voudrais vous donner quelques résultats pour vous montrer que ces dispositifs sont performants. Donc Gavi, c'est un exemple de partenariat public-privé au plus haut niveau possible, en quelque sorte, au niveau planétaire, hein, littéralement. Et en 5 ans, Gavi a dépensé 1,5 milliard de dollars, parce que la convention, c'est que Gates mettait la moitié sous réserve que les autres partenaires trouvent l'autre moitié. Donc 750 millions de dollars, ce qui d'ailleurs était un peu visqueux, mais a fini par se faire. Et maintenant, Gavi dispose réellement de ressources beaucoup plus établies, et donc le pari fait à l'origine est en quelque sorte gagné, de la même manière qu'il est gagné, enfin en train d'être gagné, de la même manière qu'il est gagné. Vous avez entendu les sommes de 9 milliards de dollars qui s'investissent maintenant dans le Fonds mondial. Donc, je vous donne les chiffres pour vous dire que on peut, après 6 ans d'exercice, évaluer le résultat de Gavi, puisque Gavi s'est donné comme objectif princeps de vacciner les enfants dans les pays en développement. Et donc, on peut évaluer, évidemment, c'est un calcul, c'est une estimation qui a été faite par l'OMS du nombre de morts d'enfants probablement évitées par les opérations de vaccination. Et donc, fin 2006, c'est 2,3 millions de morts d'évitées. Ce qui est quand même un résultat absolument fantastique, dont personne n'osait rêver il y a 5 ou 6 ans. Et en matière de couverture vaccinale, en 2006, Gavi a contribué à vacciner 150 millions d'enfants supplémentaires par rapport à ceux qui sont déjà vaccinés, dont une partie avec les vaccins conventionnels et l'autre avec des nouveaux vaccins comme le vaccin contre l'hémophilus ou contre l'hépatite B. Dans les pays pauvres, comme le système est conditionnel, l'action de Gavi induit des changements dans les systèmes de santé et arrive à avoir un effet démultiplicateur. Et donc, ce que l'on constate, c'est que dans les pays les plus pauvres, où la dépense de vaccination était inférieure à 2,5 dollars par enfant et par an, elle est maintenant montée à 5 dollars, donc elle a plus que doublé dans ces pays. Et les pays, maintenant, ils consacrent à peu près un tiers de la somme, là où ils ne consacraient rien du tout. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une mécanique qui se met en place. Voilà. Donc, si vous voulez, des solutions nouvelles sont élaborées et il y a des raisons d'être plus optimiste aujourd'hui qu'on ne l'était avant. Et maintenant, je voudrais aborder le premier des secteurs que je trouve un peu ignoré, et ce n'est pas un plaidoyer très, très, très populaire dans lequel je vais me lancer, mais je le fais quand même, et je l'ai fait plusieurs fois et je continuerai à le faire. Ce plaidoyer, c'est que je souhaiterais, pour ma part, qu'il y ait une véritable science de la réglementation. Et les arguments que j'utiliserai, de la même manière qu'il y a evidence-based medicine, je pense que nous devrions avoir evidence-based regulatory affairs. Et je vais vous donner quelques arguments. Dans l'industrie, les coûts de R&D par produit ont été multipliés par à peu près 3 ou plus en 15 à 25 ans. Bon. Alors, bien sûr, les produits sont censés être meilleurs, hein, on est bien tous d'accord, mais enfin bon. Okay. Les standards réglementaires, comme je l'ai dit, ne cessent de s'élever, et pourtant, le nombre de vaccins et de médicaments ne s'accroît pas. Je vous montre une courbe qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été produite par un cabinet de consultants, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà ce qu'on appelle le gap en matière de pharmacie, on n'est pas en matière de vaccin, et en matière de vaccin, je pourrais vous donner quelques indications si vous le souhaitez. Voyez avec la courbe rouge, les sommes, ce que je vous disais, le facteur 2 ou 3, le 3 qui passe de 15 millions de dollars, milliards à 40 milliards de dollars. Et le nombre de produits qui sont réellement mis, nouveaux, totalement innovants, mis sur le marché, a l'air plutôt en décroissance qu'en croissance. Et donc, effectivement, le prix par molécule augmente de façon énorme. Le résultat de ça, c'est que si maintenant on s'occupe uniquement de la question des pays du Sud, c'est que premièrement, lorsque nous leur vendons des produits, ils souffrent évidemment d'une structure des coûts qui est inadéquate, puisque les coûts incluent et lourdement les coûts de R&D. L'autre conséquence, c'est que les pays du Sud sont pour la plupart à peu près incapables de suivre la course aux standards. En d'autres termes, produire selon les standards occidentaux est quelque chose qui est extrêmement onéreux, et en plus ça varie sans arrêt, et donc il faut de la ressource financière et de la flexibilité pour arriver à suivre. Et donc le résultat, c'est que le système réglementaire, dans les faits, a installé une barrière protectionniste du Nord vis-à-vis du Sud. Alors, la situation est en train de changer dans la mesure où, dans les pays émergents, notamment au Brésil et en Inde, se développe maintenant une industrie pharmaceutique, une industrie du vaccin qui commence à prendre une certaine tournure, à propos notamment des problèmes de générique. Mais je voulais vous dire que, bien entendu, ces pays sont eux-mêmes, dans la plupart du temps, engagés dans une logique économique et donc ils cherchent à développer une industrie profitable. Donc, il empêche qu'ils arrivent à diminuer les coûts de production. Donc, je pense qu'il est légitime de questionner les standards réglementaires. Je trouve qu'il n'est absolument pas scientifique d'avoir un dispositif dans lequel les bénéfices et les coûts induits sont soit mal évalués, soit pas évalués du tout. Et incidemment, parmi les coûts, il y a un coût qui n'est pas négligeable du tout, c'est le facteur temps. Et on a vu aux États-Unis, par exemple, des associations de malades se lever contre la puissante FDA au motif que les délais qui étaient induits par la gestion de la procédure réglementaire leur paraissaient excessifs et retardaient la mise sur le marché des médicaments qui pouvaient les sauver. Et finalement, ça induit une certaine réforme de la FDA. Il faut que vous sachiez que, par exemple, maintenant, les enregistrements des médicaments et des vaccins, je ne vais pas parler de vaccins, sont totalement électroniques. Le volume de données, on ne le connaît pas. Mais j'ai vu ce que c'était il y a seulement 5 ou 6 ans, que l'enregistrement d'un nouveau vaccin, si vous voulez, le volume de données, etc., c'est la camionnette. Une tonne de documents qui part vers les autorités réglementaires, et c'est pas 1000 fois le même document. C'est une masse absolument colossale de données, et ça n'arrête pas de croître. Donc il y a peut-être une limite à trouver et un questionnement à avoir. Et j'indique ici qu'à mes yeux, ce questionnement n'implique absolument pas un relâchement de la rigueur scientifique, c'est exactement l'inverse. C'est qu'à mon avis, il faudra introduire de la science là où on en manque. Et j'ajouterais, sans discuter ce point, pourtant il est extraordinairement important, qu'il y a une dimension morale implicite dans les questions de sécurité, c'est que l'intuition ou un certain réflexe tendrait à dire que tout ce qui est plus sûr est mieux. Bon, et on introduit un jugement de valeur et donc une dimension éthique dans cette course à la sécurité. Et à mon avis, il faut la borner parce qu'on arrive à des contradictions insolubles et même, à mon avis, totalement insupportables. Et même, à la limite, l'éthique commence à flirter avec ce que je crois être, pour ma part, une certaine immoralité. Alors, je vous donne un exemple. L'exemple du vaccin contre le rotavirus que j'ai évoqué rapidement. Ce qui s'est produit, c'est vraiment un cas d'école. C'est un cas extrêmement intéressant. Encore une fois, certains d'entre vous le connaissent probablement, mais le cas est vraiment très intéressant. Donc, dans la fin des années 90, la firme Wyeth, aux États-Unis, a mis sur le marché un vaccin contre le rotavirus, Le rotavirus n'étant pas, étant un problème significatif de santé publique aux États-Unis, beaucoup plus en termes de coûts d'hospitalisation que, Dieu merci, de morts d'enfants. Parce que je crois qu'il y avait à peu près une moyenne de 200 morts par an, ce qui est évidemment trop, mais c'est pas 200 000 morts. Mais en revanche, les coûts d'hospitalisation liés à cette catégorie de virus qui cause des diarrhées sévères étaient importants. Donc le vaccin avait sa légitimité économique. Bon. Il a été développé, il a été mis sur le marché, et après avoir été mis sur le marché, les études que l'on appelle de phase 4 de pharmacovigilance ont suggéré qu'il y avait une proportion légèrement anormale de cas de ce qu'on appelle une intussusception, une sorte d'une pathologie intestinale. Wyatt a immédiatement retiré le vaccin du marché. Alors, il y a deux enseignements à cette histoire. Alors, retirer le vaccin du marché, c'est, je ne sais pas combien, 500 millions de dollars, ils disparaissent en fumée, enfin, je ne connais pas le chiffre, mais c'est... Il y a deux enseignements à cette histoire. Le premier, c'est que, en fait, les études ultérieures ont montré qu'il y avait une déviation statistique et que c'était pas vraiment sûr qu'il y avait réellement un excès de cas d'intussusception. Et en fait, d'après ce que j'ai lu récemment, la statistique est redevenue plus ou moins normale. Donc, en fait, c'était une déviation statistique pas convaincante, en tout cas. Mais le point le plus important, c'est que la question pouvait se poser d'avoir un rapport. Et on peut comprendre qu'aux États-Unis, on ne veuille pas prendre ce risque, et c'est l'affaire des États-Unis et des Américains. Bon, très bien. Le problème, c'est quand même qu'il y a plus de 500 000 enfants qui meurent par an d'infection à rotavirus dans le monde. Donc on aurait pu se demander s'il était légitime de développer ce vaccin à l'intention des pays en développement où les enfants meurent. Alors, j'ai là aussi un peu enquêté sur ce point pour savoir exactement ce qui s'était passé, et il y a eu effectivement quelques discussions au sein de l'Organisation mondiale de la santé, et finalement, premièrement, un point relevé, c'est que j'ai cru comprendre que dans ces discussions, il y avait soit un, soit zéro représentant des pays du Sud, ce qui est quand même un peu bizarre. Et deuxièmement, tout le monde s'est dit non, on ne peut pas prendre le risque, c'est trop compliqué, etc. Donc ça n'a pas été fait. Bon. Donc si vous voulez, c'est quand même un exemple qui, à mon avis, incite à réfléchir et à inciter d'autres sociétés à réfléchir. Parce que, et pour moi c'est un tournant presque historique dans l'industrie du vaccin, deux nouveaux vaccins contre le rotavirus ont été développés, celui est enterré, fini, terminé, mais deux autres firmes ont entrepris un développement et ont commencé pour, je crois, pratiquement la première fois à cette échelle, ils ont commencé à faire les essais cliniques directement dans les pays en développement ou dans les pays émergents, où était effectivement la cible majeure de l'intervention. Ceci pour dire qu'il y a donc un certain changement qui s'introduit également dans ce domaine. Donc pour terminer sur ce point, j'estime pour ma part que les standards réglementaires ont une certaine part de responsabilité que je suis incapable bien sûr de chiffrer plus avant. Dans la situation sanitaire inacceptable des pays en développement, les coûts de R&D sont insupportables pour les pays pauvres, pour les institutions académiques et même pour les grandes organisations. Même Gates ne peut pas financer des développements à plusieurs milliards de dollars plusieurs fois. Les coûts sont vraiment extraordinairement élevés. Et on ne peut pas je ne peux pas me débarrasser du soupçon qu'une partie de la générosité du public est dans les faits dissipée dans des processus dont l'utilité n'est pas prouvée. Et donc, je milite pour ma part pour le fait qu'on se livre à une activité, une analyse coût-bénéfice des réglementations. Et je pense que le champ n'est pas suffisamment informé par la science. Et je conclurai cette partie avant d'aborder la seconde et la dernière pour vous dire que il me paraît que dans les pays développés où les dépenses de santé ne cessent de croître, je pense que les pays développés ne tarderont pas à bénéficier d'une approche qui consiste à faire au moins aussi bien avec moins d'argent. Et aujourd'hui, en partie pour des raisons, encore une fois, de réglementation, ça n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, même si ce n'est pas un sujet très, très, très appétissant ni populaire en aucune manière, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et très franchement, ce sujet est rarement et peu abordé. Et on peut bien sûr ne pas être d'accord, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Alors, je voudrais passer à un deuxième champ qui est d'une autre nature, et c'est un champ que j'ai exploré en travaillant sur ce rapport dont je vous ai parlé, et j'aurai fini rapidement. Et c'est la sphère des acteurs de terrain. Alors, les acteurs de terrain, c'est qui ? C'est que dans les pays en développement, mais aussi, si l'on voulait bien regarder dans les zones pauvres de nos pays riches, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour essayer de bien faire, d'améliorer les choses, etc. Donc il y a des ONG, mais il y a aussi, bien sûr, les acteurs locaux, des agents de l'État local. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et cette sphère est extraordinairement mal organisée. Je pense que c'est un constat qui est assez juste. Évidemment, il faudrait le nuancer. Ça dépend des endroits, ça dépend des pays, ça dépend des gouvernements, ça dépend. Mais l'un dans l'autre, il est à peu près clair que tout le monde s'en plaint. Il y a un problème de capitalisation des savoirs et des savoir-faire. Il y a des problèmes d'évaluation. Les grands organismes internationaux, vous l'avez entendu hier, envoient des observateurs à un niveau macro pour essayer de savoir à peu près comment les choses se passent, si elles se passent bien, etc. Il y a des conditionnalités introduites dans les financements. Mais fondamentalement, il y a un problème parce que les acteurs de terrain eux-mêmes, et j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, sont complètement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de capitalisation, très peu d'évaluation, et que eux-mêmes et certaines grandes ONG sont assez mal en mesure d'évaluer même ce qui se passe en matière de qualité dans leurs propres actions. Alors, la problématique est critique parce qu'effectivement, au moment où on injecte des sommes considérables dans les pays en développement, il est important d'améliorer cette situation. Alors, en deux mots, parce que le temps passe, je voulais vous dire que j'ai choisi, dans ce rapport figurait une approche que j'ai commencé à développer et qui est la suivante. L'approche, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a des gens qui font des tas de choses sur le terrain. En un sens, ils font des expériences. Mais le problème, c'est qu'ils font des expériences sans avoir les règles de fonctionnement qui permettent de capitaliser ces expériences. Et en gros, et pour caricaturer en une phrase ce que je veux dire, en fait, l'action de terrain est une science qui s'ignore. Ça devrait être une science et ça n'en est pas une. Ne croyez pas qu'il s'agisse là d'un discours qui soit scientiste. La bonne formulation est de penser que les acteurs de terrain pourraient s'approprier un certain nombre de règles de fonctionnement de la communauté scientifique qui les aident effectivement à mieux communiquer, à mieux capitaliser les savoirs, les savoir-faire, à être mieux reconnus également parce qu'ils sont mal reconnus. Et donc, c'est dans cet esprit que j'ai travaillé pour lancer une initiative qui s'appelle FACTS. Et FACTS, ça veut dire Field Action Science. Et juste pour me faire comprendre très, très rapidement, nous avions fait à l'Institut Pasteur une étude épidémiologique sur la méningite au sud du Niger. Il y avait eu un problème parce que l'étude épidémiologique qui avait été faite un peu par hasard avait montré que le sérotype qui circulait n'était pas celui qui était attendu. Et Gates était en train d'injecter 80 millions de dollars pour fabriquer un vaccin qui n'était pas le bon. Donc il y avait quand même un vrai sujet. Mais, pardon. Comment ? Et donc il y avait un vrai sujet et les gens qui travaillaient sur cette étude étaient venus pour me dire « il nous faudrait un laboratoire mobile ». Alors, ils ont eu l'argent pour faire un laboratoire mobile. Et puis, il y a 3 mois, j'ai rappelé ceux qui avaient fait ce travail. Ils m'ont dit, super, l'étude est publiée dans Lancet, qui est une des très grandes revues. J'ai dit, bon, et le laboratoire mobile ? Ah, il dit, publié nulle part. Alors, j'ai dit, mais comment ça, publié nulle part ? Il m'a dit, non, c'est pas publié, parce que Lancet n'a pas voulu, même dans les matériels et méthodes. Alors j'ai dit, est-ce que ça a été facile ? Non, ça a été difficile, on a eu beaucoup de problèmes. On en a fait 2 parce qu'il a fallu ceci, cela, etc. Et il a fait les prototypes, ils sont arrivés à des formules, etc. Mais c'est publié nulle part. Et le résultat, c'est que si d'autres ont besoin d'un laboratoire mobile dans le monde, ils vont faire les mêmes erreurs, j'imagine, ou avoir les mêmes difficultés. Donc, je conclurai sur ce point. C'est donc l'initiative FACTS qui est qui se résume à ceci, c'est que si l'action de terrain est effectivement une science qui s'ignore, il faudrait s'approprier un certain nombre de règles. Et la première de ces règles, c'est de publier les résultats et de les soumettre au jugement par les pairs. Et donc, ce que nous arriverons, je pense, à lancer dans quelques mois, c'est une grande revue électronique internationale de l'action de terrain, entièrement gratuite, qui sera dotée d'un mécanisme de jugement par les pairs étant eux-mêmes des acteurs de terrain. C'est-à-dire que un protocole qui améliore le traitement contre le sida au Malawi, il ne sera pas revu par un professeur du MIT ou de Karolinska Institute, il sera revu par quelqu'un de la Croix-Rouge et quelqu'un du ministère de la Santé du Mali. Voilà. Donc c'est le principe de cette action qui est en cours de développement et dont j'espère bien qu'elle aidera à améliorer cette situation à laquelle nous sommes, je pense, tous attachés à trouver des pistes d'amélioration. Je vous remercie.